Salut Sécur, épisode spécial, je suis combien de Davy. Comment vas-tu?
Salut. Écoute, très bien, je te remercie de m'accueillir à nouveau.
Oui, c'est honnête. Ou en plein.
Pas pour ce, là où on est en tout cas.
Dans le moment où on est rendu, c'est encore l'été. C'est toujours un énorme plaisir de se parler. Puis là, cette fois-ci, on a un sujet assez funky, en tout cas à mon avis. On a abordé ça un peu de façon indirecte dans nos différentes conversations. Le monde des TI est un monde qui est en changement, qui est en constant changement. Il y a des acquisitions, il y a l'open source, il se passe des choses, ça bouscule beaucoup et ça a des conséquences sur les entreprises et des changements très importants et des considérations à avoir quand on choisit une technologie ou quand on choisit une approche qui est définie cloud, pas cloud, site, open source, ainsi de suite. Donc, il y a des effets à ça. Et je vais te laisser partir là-dessus parce qu'il y a quand même trois sujets qu'on va aborder là-dessus qui sont, à mon avis, très, très intéressants et très porteurs en termes d'alimentation de la réflexion qu'on doit avoir quand on choisit une technologie, quand on avance avec cette technologie-là et comment on la fait vivre dans nos entreprises.
Tout à fait. Je te remercie de cette introduction. Effectivement, on est parti de ce constat. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on bosse là-dedans et qu'on voit régulièrement des grands mouvements. Il y a des nouveaux éditeurs qui arrivent, il y a des produits qui ont du succès, qui prennent l'ascendant. On pourrait citer les produits de VMware qu'on voit aujourd'hui. On peut citer Docker, par exemple, ou Kubernetes, voilà, qui sont des produits avec beaucoup de succès. Windows en est un et qui nous a montré il n'y a pas longtemps que si on met Windows partout, on peut avoir des grosses emmerdes. Merci CrowdStrike, très bon exemple. Alors, on ne va pas le donner en exemple ici en particulier, ce n'est pas lui qu'on va discuter, mais ça pourrait être intégré aussi. Cette logique, effectivement, qu'il n'y a pas de choix gratuit. C'est un truc qu'on dit souvent en conseil, je pense que tu dis la même chose à nos clients. Il n'y a pas de choix gratuit, en fait, il n'y a pas de choix facile. On ne prend pas un truc parce que c'est la mode. Alors ça, en ce moment, je gueule en cours, je t'avoue. Je fais vraiment mon ours. Dès qu'on me parle de Kubernetes, j'ai dit... Soit tu as une réflexion très intelligente derrière, soit je te jure que c'est la dernière phrase que tu vas prononcer aujourd'hui. J'ai rien contre Kubernetes, je trouve le produit génial quand on a quelque chose à faire avec.
Mais ça revient à ça. La plupart des projets peuvent vivre sur un seul serveur et n'ont pas besoin d'un orchestrateur à la Kubernetes dans ce cas-ci, notamment dans ce genre de choses-là. Là.
Alors, petite joke que je donne en général en cours, je dis toujours que Kubernetes, c'est comme si vous vouliez commencer à apprendre à piloter un avion en commençant par un Boeing 747. Vu la réputation de Boeing en ce moment, c'est pas trop la bonne idée, puis ça fait un peu gros. Donc, voilà, les outils, c'est bien. Les outils, je dis toujours, un outil, c'est complètement con quand même initialement. Donc, un outil, c'est là pour nous aider à faire un truc. Et dans les gros mouvements que nous, on va voir, il y a trois grands outils ou trois grands éditeurs cette année qui ont été un peu remis en cause ou des solutions. On va parler d'abord de la solution Terraform d'HashiCorp, qui est un produit d'infrastructure as code très connu, qui a été racheté par IBM cette année. Donc, gros changement. Ensuite, on va parler, évidemment, on va faire tomber non pas un pavé dans la mare, mais une montagne. On va parler du rachat de VMware par Broadcom et de l'impact considérable que ça va avoir. Et on va terminer en parlant d'exemples open source avec Redis et Redis, puisqu'aujourd'hui, il y a deux versions de Redis qui se battent en duel. Et on va voir comment ça nous impacte et qu'est-ce que ça change pour nous. Donc, on va commencer dans l'ordre au moins de les donner. Donc, on va commencer par le use case, effectivement, HashiCorp, rachat par IBM. Qu'est-ce que ça nous dit pour nous? Alors, il faut savoir que l'annonce a été faite en début d'année et elle a été publiquement assez mal accueillie. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, après tout... une petite boîte qui fait un produit qui a beaucoup de succès, qui est racheté par une grosse boîte, c'est juste plus d'argent pour développer le produit. Et initialement, je vous dirais, oui, c'est vrai. En termes de logique, oui, c'est vrai. C'est juste une grosse boîte qui a plus de moyens pour soutenir un produit qui fonctionne très bien. Donc, Terraform, par exemple, le produit qui a le plus de succès chez HashiCorp, c'est un produit d'infrastructure as code. L'infrastructure as code, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est en gros, on peut décrire toute une architecture cloud avec des mots, les mettre dans un document et le faire exécuter par l'outil directement pour nous. Donc, c'est comme si vous décriviez tout un bâtiment entier et hop, vous avez la boîte qui vous le fait construire immédiatement derrière. Donc, c'est une pratique très courante. C'est une très bonne pratique qu'on met en place chez tous les fournisseurs de cloud. Les fournisseurs de cloud ont leurs propres outils, mais HashiCorp a eu la bonne idée de développer un outil compatible plusieurs clouds. Donc, ça permet, quand on est multi-cloud, ce qui est 75% du marché, ça permet d'avoir une approche transversale et stratégiquement, c'est quelque chose qu'on voit souvent nous chez les clients, on dit si on travaille sur plusieurs éditeurs en même temps, c'est compliqué de maîtriser chacun d'entre eux. Donc des fois, c'est bien d'avoir des outils transversaux, comme Kubernetes, qui est un très bon outil transversal pour ça, d'avoir une stratégie où on dit, moi, mes équipes, je sais quoi, j'ai pas le temps dans une semaine, est-ce qu'elles qu'elles montent en compétence sur 50 outils. Elles ont déjà beaucoup de choses à faire. Donc si pour cette partie infrastructure as code, j'ai un seul outil, c'est mieux pour moi. J'ai toujours, hein, si vous faites que du Google, si vous faites que de l'Amazon ou vous faites que du Microsoft Azure, prenez les outils natifs. Par contre, si vous faites les trois en même temps, effectivement, si vous avez un outil transversal entre les trois, c'est plus pratique. Donc, HashiCorp a eu cette excellente idée. Terraform est un très bon outil pour ça. Et puis, bah, IBM les a rapprochés cette année en disant, bah, écoutez, nous, on vous approche. On a été voir les fondateurs. On dit, enfin, les gars, on vous donne quelques millions, voire dizaines de millions, et vous nous cédez tout. Et nous, on vous soutient, on développe le produit. Évidemment que du point de vue du propriétaire de l'outil, bah, c'est vacances aux Bahamas pendant plusieurs années, c'est tranquille, on comprend que ça peut être... Bah, surtout quand on a produit, quand on a fabriqué un outil comme ça, et que ça fonctionne, c'est légitime de vouloir, hein, gagner de l'argent dessus. Alors, en quoi ça pose problème? IBM, dans les années 80 ou 70, c'est littéralement leur doit tout. Faut être honnête, hein, IBM, dans l'histoire de l'informatique, a quasiment tout inventé, en tout cas, tout modernisé, industrialisé. IBM a beaucoup plus compté dans l'informatique que n'a compté Microsoft aujourd'hui. Faut être honnête avec eux. Et je parle de l'informatique au sens le plus large possible. Je parle pas que l'informatique personnelle. On parle des outils professionnels, on parle des outils, des outils connectés qu'on a aujourd'hui. Il y a plein de technologies qui viennent de la recherche du développement d'IBM. Sauf qu'aujourd'hui, en 2024, IBM, c'est plus du tout ça. IBM aujourd'hui n'a pas su passer certains caps, a eu des difficultés justement à rester opérationnel et être novateur. Donc quand aujourd'hui une boîte comme ça qui est un peu en train de, je ne vais pas dire qu'elle est en train de mourir, mais en train de perdre en train de décliner, quand elle rachète un produit, on a toujours peur qu'elle l'entraîne chez elle. Ensuite, il faut voir que ce genre de rachat, souvent, c'est simplement pour des questions financières. C'est-à-dire qu'IBM n'achète pas l'outil parce qu'il est bien, il achète l'outil parce qu'il est rentable et qu'il est implémenté chez beaucoup de clients. Et oui. Et donc, on revient là-dessus. C'est le point de départ de notre réflexion. C'est que moi, Terraform, je le rencontre chez 7 clients sur 10. Même dans les cas où ça se légitime pas forcément. Et donc, ça veut dire qu'on crée une adhérence à un produit qui, là, en l'occurrence, est racheté par quelqu'un qui peut décider de changer les règles. Et c'est ça, en fait, qui fait peur aujourd'hui. C'est que IBM n'est peut-être pas mal intentionné en soi, mais ils ont peut-être envie simplement de gagner de l'argent en plus sur le produit. Et donc, ça veut dire que le produit peut d'un jour au lendemain être modifié de façon significative. Ça peut être le fonctionnement du produit, ça peut être le système de licence, c'est souvent ça qui va aller avec, ou le support, qui va avoir un impact. Ça veut dire que les clients qui vont se retrouver touchés par ça vont devoir trouver une alternative. Alors, pour le cas de Terraform, Terraform est très open source initialement. Ben, dans la foulée, directement, la communauté qui soutenait Terraform a décidé de faire un fork. Donc, un fork, pour les non-initiés, c'est une version nouvelle, différente, une fourche, hein, une branche nouvelle, purement open source, qui s'appelle OpenTofu. Il y en a d'autres alternatives, hein, pour ceux qui vont voir les détails techniques, il y a encore d'autres versions qui sont sorties. Aujourd'hui, celui qui a le plus d'ampleur dans la communauté, c'est OpenTofu, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui veulent rester purement open source et se passer du système de licence peuvent aller faire une version à leur sauce. Alors attention, évidemment que les versions sous licence peuvent avoir des facilités d'utilisation que n'ont pas les versions purement open source. Bah oui, vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, comme on dit ici. Donc c'est à un moment donné, il faut faire un effort. C'est un commentaire qu'on avait fait en off avant d'arriver dans ce sujet. On a beaucoup de clients qui aujourd'hui font preuve de fainéantise intellectuelle ou qui n'ont pas envie de gérer les outils et ils voudraient la facilité du produit finalisé avec ceux qui se sont emmerdés à le faire, mais sans payer les licences qui vont avec. Donc là, le problème est que beaucoup avaient dit bon, les licences Terraform ou Terraform le produit, on s'en accorde très bien. Sauf que là, en arrivant sous le giron d'IBM, on sait très bien qu'on va avoir un système de licences qui va changer. Alors c'est pas formalisé au moment où je vous en parle, je peux pas en dire trop de mal parce que je suis pas encore sûr de comment ça va se passer. C'est quelque chose qui est en évolution. Par contre, je peux vous dire que j'ai beaucoup de clients qui... Alors, je dirais un tiers de mes clients ne sont même pas encore en courant, même quand on leur reparle, et toujours pas compris. Il y en a un tiers qui a déjà choisi de faire de l'open source pur, donc qui est parti sur OpenTofu, et les autres qui sont en train de se poser la question de ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'ils sont en attente. C'est-à-dire que cet événement-là a forcément un impact dans la vie de tous les jours des équipes et de la stratégie qui va avoir des répercussions sur le boulot d'après. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est que de l'infrastructure as code. S'ils font du d'Amazon, ou de l'Azure, ils peuvent aller toujours le faire localement. Oui, il y en a des clients, qui ont laissé Terraform de côté, qui refont du CloudFormation, par exemple, chez Amazon, directement. C'est possible. Donc, on voit que ce rachat-là a un impact, mais qui reste modéré.
Ben, à ce stade-ci, il reste modéré, mais on a, c'est parce que puis là, c'est le deuxième sujet. Le rachat de VMware par Broadcom a échaudé beaucoup le marché. Et j'ai l'impression que le rachat de Terraform, d'HCorp par IBM, laisse présager qu'on se retrouve dans une situation similaire qui, à terme, va être une gifle financière pour tous les clients de Terraform à l'heure actuelle. Et pour ceux qui ont la version pure payante, là, on s'entend. Là. Puis ça aussi, ça m'amuse aussi de comprendre que les gens ne maîtrisent pas certainement ça. Vous l'avez vu beaucoup avec Elasticsearch notamment, parce que Elasticsearch existe en trois versions, c'est-à-dire la version pure open source où tu t'arranges tout seul puis bonne chance, en version licenciée mais gratuite où tu peux utiliser avec certaines facilités, certains avantages, mais limité quand même. Je pense un peu ça communauté ou en tout cas. Et tu as la version payante où là, tu as accès à toutes les options et avec la facilité de déploiement. Donc, tu sais, ces éléments-là, les gens ne comprennent pas ces nuances-là. Et parce que l'OpenTofu ne doit pas nécessairement être simple non plus. Quoique c'est un choix qui peut être intéressant. Ici, il est correctement réfléchi, mais quand même exige un certain nombre de réflexions assez importantes des entreprises parce que ça n'est pas simple.
L'outil ne réfléchit pas. L'outil est complètement con. Et tu l'as très bien dit, ça veut dire qu'il va y avoir un effet sur les équipes. Il y a une montée en compétences. Faire du full open source, c'est très bien. Moi, je l'accueille, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ça demande des gens intelligents quand même, qui se forment, qui apprennent et qui comprennent qu'il y a des trucs qui ne seront pas faits pour eux. Il y a des trucs qui seront faits par eux et qui font. Dans l'open source, il y a un degré d'engagement qui est plus lourd que j'achète un produit sous licence, clé en main, et on me nourrit à la bouche, à la petite cuillère directement. Donc, c'est, à un moment donné, ça se paye. Alors, oui, le coût de Terraform, c'est pour ça qu'on commence par ça, c'est gentil, parce qu'on peut se dire, oui, mais c'est qu'une étape, c'est qu'un élément, et on a déjà le substitut, on l'a déjà, oui. Et donc, effectivement, on va lancer le pavé dans la mare. Le gros rachat de cette année qui fait beaucoup jaser par vous et sur tous les continents, c'est le rachat de VMware par Broadcom. Et là, on a un truc qui a beaucoup plus d'impact. Pourquoi? Pourquoi ça a beaucoup plus d'impact? Ça a beaucoup d'impact parce que, alors, on pourrait dire trois raisons. D'abord, VMware, c'est le numéro un mondial de la virtualisation. Je suis un ancien consultant et formateur VMware, j'en ai fait pendant 10 ans, donc je peux vous en parler, et ça nous a fait vivre pendant des années. VMware a littéralement pris le marché d'assaut il y a presque 20 ans. Ils ont modernisé la virtualisation qui existe, merci IBM, depuis 1967. Mais eux, ils l'ont modernisé pour le x86, et ça, ils ont fait un produit excellent. Faut le reconnaître, le produit de VMware était très bon. Et ils l'ont bien packagé, ils ont un système de licence qui n'était pas top, voilà, mais qui était assez cher, mais on était sur ce qu'on appelle des licences perpétuelles. Donc, premier point d'impact, c'est que, on va dire, 8 virtualisations sur 10 aujourd'hui sur la planète, c'est du VMware. Grosso modo, je suis gentil, alors, entre 70 et 80% de la virtualisation mondiale, c'est du VMware. Le restant, c'est Hyper-V de Microsoft et tous les autres. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. OK? Donc, on en est là aujourd'hui. Donc, on voit bien que la...
Puis tous les autres, vas-y. C'est de l'open source. Et on revient encore sur la discussion de ce genre de choses-là. Voilà. Pour ce que j'ai vu ailleurs, c'est du QEMU, c'est du KVM, c'est Xen. Citrix, ouais, ça, c'est tu peux l'avoir en payant, mais bref, c'est tout des...
Alors, Xen, à l'origine, c'est de l'open source. Avant que oui. Xen soit racheté par Citrix, oui. On aurait pu intégrer cet élément. Alors, ça a eu peu d'impact. Oui. Et puis, il y a eu beaucoup de forks qui sont sortis entre deux aussi. Exactement. Donc, VMware est très présent sur le marché. De la virtualisation, aujourd'hui, c'est une norme, c'est un standard. Hein. On n'a plus de clients aujourd'hui, je pense, qui font que du full matériel. Ça n'existe plus trop. Ou alors, quand ils ont du matériel chez eux, ils ont des couches de virtualisation par-dessus. Et on était sur les systèmes de licence perpétuelle. Donc, une licence perpétuelle, en fait, souvent, quand on dit ça, les clients ne comprennent pas. Et puis, on dit, en fait, les gens qui ne sont pas habitués, mais en fait, la licence perpétuelle, quand vous achetez un ordinateur avec du Windows, c'est une licence perpétuelle. C'est-à-dire que la licence du produit est cédée avec le droit d'usage à vie. Si vous gardez votre Windows XP pendant 20 ans, vous avez le droit. Ce qu'il n'y aura pas avec, c'est le support. Et c'est là où les éditeurs gagnent de l'argent chez les clients. En fait, les licences de produits initiales, par exemple VMware, c'était quelques milliers de dollars pour acheter les licences, et fallait ensuite renouveler le support tous les ans ou tous les 3 ans, et le support donnait droit aux versions suivantes. Par contre, si vous vouliez la nouvelle version, vos anciennes licences, vous ne pouvez pas les réutiliser. Vous avez la version perpétuelle et on a beaucoup de clients de VMware qui sont restés sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'ils ont acquis des licences à un moment donné, ils sont montés en compétences en interne, ils se sont aperçus que ce qu'ils faisaient avec était relativement cadré et simple et que ça nécessitait pas de faire autre chose. Broadcom arrive, rachète le package pour quelques dizaines de milliards, peut-être surpayé, oui, c'est possible. Ensuite, ils disent, les licences perpétuelles, on en a marre, on arrête, c'est des abonnements. Là, il y a une partie de la communauté qui dit, oui, mais c'est normal, tout le monde fonctionne par abonnement. Alors, je sais pas si le fait que tout le monde fasse un truc, ce soit normal. Personnellement, je me méfie des effets de mode. Non, c'est peut-être dans l'air du temps de vouloir financer comme ça, et je peux comprendre. Donc là, Broadcom, en fait, change le système, et ça veut dire qu'on a des clients qui, en 3 ans, se retrouvent avec 3 fois la facture à payer. Là où avant, ils ne le payaient qu'une seule fois. Parce qu'en fait, c'était ça. Souvent, le prix du support suffisait, et ensuite, on s'en sortait très bien. Donc là, on a des clients qui nous font du double ou triple de facture. Et là où c'est problématique, on pourrait se dire, oui, mais c'est qu'un outil. Non, je crois que vous comprenez pas. La virtualisation aujourd'hui, il y a les clients qui font du 100% virtuel. C'est-à-dire qu'en fait, si vous enlevez VMware, il n'y a plus rien qui tourne chez eux. Et là, on voit qui sont, vous me connaissez, ils sont dans la merde jusqu'au cou. Et là, on voit l'impact, il est considérable. Il est d'une grande violence parce que Broadcom dit, au fait, c'est maintenant. c'est cette année, c'est en train de gérer. Si vous n'êtes pas content, bah, la porte, elle est là. Et la version gratuite, ESXi, au fait, elle n'existe plus, on ne la supportera plus, on vous la dégage. Donc en fait, ils sont en train de nous dire, voilà, vous entrez. Par contre, attention, évidemment, dans l'abonnement, vous avez accès à plein d'autres produits dont vous n'avez pas forcément besoin. Là encore, ça peut se discuter. Ça veut dire que les clients qui sont aujourd'hui sur du VMware sont en panique totale. Alors, il y en a qui n'ont pas encore pris la nouvelle en compte, je pense. Mais il y en a beaucoup qui sont en train de paniquer, en se dire, qu'est-ce qu'on fait? Et là, le problème du qu'est-ce qu'on fait, c'est que la concurrence... Elle est pas tellement présente ici. Alors, on va nous citer Proxmox, on va nous dire, bah, tu peux aller faire du Microsoft Hyper-V, etc. Bah, changer du VMware à Hyper-V, je veux bien, mais pour avoir fait les deux dans ma carrière, je peux vous assurer que c'est pas un virage facile à faire parce que c'est vraiment des approches différentes et des mentalités différentes. Et Proxmox ou autre, c'est de l'open source. Donc, on l'a dit tout à l'heure, l'open source, c'est pas gratuit de rentrer dedans. Il y a des systèmes de licence pour certains.
Ouais, puis c'est pire que ça dans le cas de Proxmox parce que il y a une version communauté gratuite, mais qui est normalement payante et licensable. Donc on est un peu dans le même concept que du jour au lendemain, eux peuvent décider de dire. Puis ce qui est la beauté de Proxmox, parce que je l'utilise dans mon laboratoire personnel, c'est que il y a une interface unique qui nous permet de gérer toutes les différents éléments qu'on a. Donc on est capable d'avoir une simplification de cette gestion-là. Mais le réel, parce que les moteurs de virtualisation qui sont gérés, qui QML dans leur cas, puis LXC, qui est le modèle de containerisation, il est spécifique, mais il est open source, vous pouvez le faire. Mais LXC, c'est du Ubuntu, c'est licenciable aussi. Fait qu'on est encore dans des univers hybrides avec des dangers et des certains éléments à tenir en compte. Et le transfert d'un à l'autre se fait douloureusement parce que je l'ai fait. J'avais ESXi avant, puis je l'ai transféré sur ça, puis c'est pas c'est très douloureux, là, c'est pas le fun. Là. Personne ne veut faire ça. Puis si on veut aller sur d'autres affaires, si on veut aller sur du pur open source, du QML, par exemple, bonne chance.
Ah, du point de vue, comment dirais-je, purement technologie, faire une VM, faire des réseaux virtuels, etc., on pourrait se dire, bon, c'est la même chose dans les deux cas. Oui, et le problème, c'est que deux voitures peuvent se ressembler, mais quand vous êtes garagiste, que vous les gérez, vous allez me dire, mais attends, moi, quand je mets la main dans le moteur, ça n'a rien à voir. Entre une voiture des années 50 et une voiture d'aujourd'hui, ben, la différence, c'est qu'il y a un ordinateur dedans aujourd'hui, que si vous n'avez pas les bons outils, vous ne pouvez pas la gérer. Alors que celle des années 50, vous la démontez, la remontez intégralement, sans souci. Donc, on est sur des approches qui n'ont pas grand chose à voir et qui, au jour le jour, vont avoir des gros effets. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces changements-là, c'est pas juste une histoire de licence, c'est une histoire de changement d'outils et de gens qui vont devoir gérer ces outils. Et donc, c'est considérablement impactant, mais vraiment très, très, très violemment impactant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça crée une zone de stress importante chez les clients qui se posent beaucoup la question de qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y en a certains qui avalent la pilule et qui payent les licences directement, parce qu'en fait, c'est moins douloureux finalement que d'évoquer l'idée même de changer. Et là, si on dit non aussi sur la sur la stratégie. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais attends, moi, j'ai autre chose à foutre. Ma boîte, elle vend des chaussures, elle transporte du poisson. Enfin, tu te rends pas compte, on peut pas se permettre de s'arrêter pour ça. Et je peux comprendre. Et les clients qui vont choisir, et Broadcom, littéralement, on compte là-dessus. Hein. Ils comptent sur le fait que les clients vont, pour une raison ou une autre, ne pas choisir de changer. Ou choisir de ne pas changer, si vous préférez. Voilà. Ils vont dire, hop, on garde là, faute de mieux, le temps de voir. Peut-être que Broadcom va être sympa ou VMware va nous faire des licences un peu sympathiques. Alors aujourd'hui, ils sont pas vus pour ça. Hein. On n'a pas de retour de clients qui disent en fait ils vous font des prix sympas en passant. Non, c'est ils arrachent. Hein. Le but de Broadcom, c'est de générer suffisamment de revenus pour rentabiliser les je crois 42 milliards qu'ils ont mis sur la table ou 24, je ne sais plus, quelques dizaines de milliards qu'ils ont mis sur la table pour les rentabiliser. Au risque, et c'est stratégiquement, hein, on est en train de se poser la question, au risque de tuer le produit littéralement. Parce qu'on en connaît d'autres hein, qui ont fait ça. Et qui aujourd'hui n'ont plus les mêmes parts de marché. Je ne citerai pas nos amis de Oraclure, pardon, hop, j'ai un peu complété leur nom, qui ont des systèmes de licence pareil assassins, qui finissent d'achever le produit progressivement. C'est-à-dire que là, on est encore une fois de plus sur un éditeur qui a un très bon produit, on peut pas le reprocher, et qui a un système de licence qui est aux limites du vampire. Quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Si c'est pour tuer la source de revenus, quel est l'intérêt? Et là, le virage de Broadcom, il est très, 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 très violent pour ça. Broadcom est connu pour ça. Moi, j'ai fait des articles dessus en me foutant un peu de leur gueule, mais Broadcom a des méthodes comparées à celles de la mafia dans l'industrie, puisque Broadcom, c'est aussi des semi-conducteurs, etc. Ils sont connus hein, pour mettre les embargos sur des secteurs, vous emmerder, imposer leurs règles, mettre des systèmes de licence sur l'usage du matériel et dire, si tu fais pas ça, de toute façon, on te baisse le marché, littéralement, à vouloir racheter les concurrents à chaque fois, même chose, pour maîtriser la totalité du marché. Qui est discutable en termes de monopole. Donc, il faudrait voir aussi peut-être que certaines institutions dans certains pays dans le monde pourraient aller leur casser un peu les pattes. Mais pour l'instant, ça n'a pas été fait. Donc, on a aujourd'hui des clients sur un marché qui sont pris au piège d'un système qui vient de changer du jour au lendemain où on ne leur demande pas leur avis et qu'a priori, Broadcom n'est pas du tout sensible aux plaintes des clients aujourd'hui. Ils n'ont pas du tout, du tout prévu de changer quoi que ce soit. Ni les prix ont baissé, ni on a des gestes de remise, ni de facilité pour migrer. Au point, on peut se dire, est-ce que ça va pas être un propulseur de cloud public? Parce que ça, c'est l'alternative. Ça peut être la motivation pour les clients qui se posaient la question ou qui n'avaient pas trop regardé, de se dire, est-ce que ça vaut encore le coup que j'héberge moi-même mes couches de virtualisation chez moi et que je continue à les gérer? Là, avec l'obligation soit de payer plus cher que ce que je faisais déjà avant, ce qui m'intéresse pas trop en soi, soit de rechanger toutes ces couches-là, et est-ce que c'est pas le virage de trop? Donc c'est ça la question qui est la communauté se pose aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas est-ce que c'est pas un tordage de bras un peu trop fort qui va pousser les clients à aller vers le cloud public, vers Azure, vers Amazon, vers Google, pour se dire, ces couches d'hyperviseurs, pourquoi nous on s'emmerderait à continuer à les gérer alors qu'en fait, on peut les faire faire par quelqu'un d'autre? Et mis bout à bout, tous ces systèmes de licence plus la charge de travail que ça représente en termes de gestion, parce que c'est ça aussi hein, le coût d'un cloud privé, c'est le matériel plus les licences plus le support plus chaque dollar que vous payez à chaque personne qui gère ça chez vous, y compris les dollars que vous les payez quand ces personnes vont se former, aussi les dollars que vous payez quand les personnes sont en vacances, il y a quelqu'un d'autre pour les remplacer. Donc tout ça, ça rajoute à la complexité et au coût. Et donc là, on voit que ce changement a un gros impact et il a d'autant plus d'impact qu'il concerne tout. Il concerne tout d'un coup, puisque là, c'est pas comme Terraform, où je peux dire, ce brick-là, je ne le fais plus, je le fais avec un autre outil, c'est fait, et ça n'impacte pas le reste. Ici, ça impacte tout, puisque c'est ce qui soutient l'intégralité. Alors, on a aussi une tendance. C'est qu'on a des clients qui, je l'ai vu dans Gartner, dit par Gartner le mois dernier, on a des remigrations internes. C'est-à-dire, on a des clients qui nous refont du matériel, qui mettent une couche open source, qui mettent du Kubernetes et qui nous font des conteneurs à la place. Donc, en fait, ils squeezent la couche de VM et d'hyperviseur pour nous mettre directement qu'en fait un OS qui sert à héberger du conteneur pour remplacer l'existence des serveurs qui hébergeaient les VM, qui hébergeaient les conteneurs. Ce qui est pas inintéressant comme stratégie. Ça reste une virtualisation qui dégage la partie hyperviseur. Alors, c'est un challenge qu'on cherche à faire depuis des années. À dire, est-ce que je peux faire la même chose que je fais avec VMware, mais sans les VM de VMware ou d'Hyper-V? Donc bah là, on se dit, bah maintenant, on peut avoir une couche d'OS très light, très 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 épurée, et mettre de la conteneurisation directement native dessus. Se dire, bah écoute, moi je construis un cluster de ressources matérielles sur plusieurs serveurs chez moi, et puis je mets plein de conteneurs dessus, je fais tourner ma ferme dessus. Et c'est une tendance que Gartner détecte chez les clients. Ils disent qu'elle est encore faible, c'est quelques petits pourcents, c'est même pas à 10%, hein, c'est 2 ou 3%, mais c'est une tendance qui est en train de s'accentuer. Donc on a aussi une fuite en se disant, bah, on va changer non pas l'outil, on va changer carrément l'approche, parce que les technologies sont aussi à maturité pour ça. Et là, on peut se poser la question de l'intelligence de Broadcom, de dire, bah, moi, je vous oblige à faire un truc au risque de pousser vers d'autres solutions.
Ouais, il y a beaucoup d'axes là-dedans, notamment la containerisation qui aurait été censée remplacer la virtualisation il y a longtemps, parce que moi, je trouve ça... je trouve que la virtualisation aurait dû changer l'univers il y a longtemps. C'est que parce que, dans le fond... Le OS se sert à parler avec la machine. Comme il n'y a plus de machine, pourquoi on a encore des systèmes d'exploitation qui sont lourds et qui sont présents? Puis la virtualisation aurait dû remplacer ça depuis longtemps, ce qu'elle n'a pas fait, parce que je trouve ça un peu étrange. Je l'aborde dans un autre podcast qui, au moment où on enregistre, n'est pas encore sorti, mais va sortir avant celui-ci. Justement, cette migration-là de ne plus avoir à gérer de systèmes d'exploitation, mais de gérer juste la conteneurisation, donc gérer le payload, le contenu réel. Donc ça, c'est effectivement très intéressant de voir que les clients vont vers ce genre de choses-là. Mais pour revenir plus à la migration au pari de Broadcom sur ce genre de choses-là, comme on peut le voir avec les migrations, parce que les gens on a parlé un peu d'open source, les gens qui disent oh, « je vais migrer vers du Linux, de toutes mes infrastructures Microsoft », ça se fait pas facilement, c'est aussi très complexe. Il y a beaucoup de résistance. C'est probablement sur ça que parie aussi un peu Broadcom. Et tous les gens qui parlent d'aller migrer, disons, de vice-versa, le M365 vers Google Workspace ou l'inverse, ces transferts-là ne se font pas simplement. Et une fois qu'on a choisi d'aller dans un, généralement, on est pris là-dedans. Puis c'est probablement toute là la réflexion de Broadcom qui croit que les gens sont prisonniers et que les gens ne feront pas l'effort de transférer d'un à l'autre parce que il y a un coût de transfert et de sortir de ça. Et aussi, bien moi, parce que là, on parle juste de virtualisation, mais c'est l'orchestration qui est l'élément fort de VMware, parce que de la pure virtualisation, proximement, ça fait le travail, c'est bien tout ça, mais quand on embarque dans les couches où que VMware a développé, donc toute l'intelligence, tout l'automatisme, toutes les facilités que VMware apporte, là, on aborde dans un univers où je ne suis pas sûr que les gens sont si que ça a changé, sauf les clients qui ont fait juste genre je mets en virtualisation puis j'utilise pas l'élément supplémentaire, mais en même temps ces clients-là qui font juste de la virtualisation pour de la virtualisation, donc j'en ai pas la capacité de réflexion ou ne veulent pas réfléchir sur tout ce qui s'ensuit aussi, fait qu'on est comme dans un drôle de prisme d'analyse sur ce genre de choses-là, parce que bref, je sais pas où ça va se diriger, où ça va tomber là.
Et tu l'as très bien dit, c'est pas juste du compute. On a le software-defined networks, software-defined storage, toute cette partie-là, effectivement, qui est l'intelligence rajoutée par VMware par-dessus. On a tous les produits annexes qu'on vient greffer autour du vCenter, ce qui amène de la compréhension, du monitoring, de l'automatisation. Effectivement, ça fait comme son cloud privé, vraiment, au terme, dans la terminologie cloud. Ce qui nous amène aussi à une réflexion sur l'adoption du cloud et sur la dépendance technologique au cloud, puisque effectivement, c'est une réflexion que j'ai souvent avec des clients. Alors oui, mais moi, si je vais chez Amazon, je vais dépendre de leurs outils. Je fais, mais tu dépends déjà de VMware chez toi, tu dépends de Microsoft quand tu vas chez eux. Finalement, la question, la réflexion est une réflexion qui n'est pas neuve. Elle est la réflexion de l'adhérence. Les deux sont possibles à un produit. À partir du moment où on choisit une technologie, que cette technologie, c'est pas nous qui l'avons fabriquée nous-mêmes, parce qu'on peut, hein. À partir du moment où on prend un produit tout prêt, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui le maîtrise. Ça veut dire que pour qu'il soit pratique à utiliser, souvent, on va nous vendre des packages complexes. D'où le système de licence de Broadcom aussi, qui parie là-dessus en disant, mais moi, dans le package, je vous offre pas que cette couche-là, je vous en mets d'autres avec. Par contre, vous payez l'ensemble, donc tant qu'à faire, vu le prix, autant consommer les autres produits. Donc, il y a ce système-là aussi qui vient. Disons, voilà, l'idée, c'est d'éviter de laisser de la granularité au client en disant, bah, si vous avez pris tout ce package-là, vous ferez, effectivement, comme tu l'as dit, il compte sur le fait que ce serait trop lourd, trop complexe, pas forcément de changer, mais de réinventer ou de réintégrer des outils à côté d'autres outils. Parce que faire du cube pour faire tourner du serveur PHP chez soi, c'est jouable. Quid de la couche réseau, quid de la couche stockage, quid de l'automatisation des déplacements, etc. Quid de la reprise. Je suis pas convaincu que les clients soient capables de tout gérer du Kubernetes à ce niveau-là. Et puis Kubernetes, même chose. Kubernetes seul, non. C'est Kubernetes plus Prometheus, plus Helm, plus d'autres outils. Donc on en rajoute sans arrêt. Là encore, on voit qu'en fait, il n'y a pas d'outil parfait qui contient tout. Et qu'à chaque fois qu'on choisit ça, on crée en fait comme une interdépendance de librairies, de fonctionnalités, de produits qui interdépendent les uns des autres. Et ne nous leurrons pas, comme tu l'as dit, il y a des versions open source. Oui, mais attention, l'open source, bah d'abord, il y a l'open source, c'est pas au singulier, c'est open source au pluriel. Il y a plusieurs versions d'open source aujourd'hui qui se battent en duel. Et l'open source ne nous garantit pas non plus une indépendance totale. Et là, c'est le troisième exemple qu'on prend aujourd'hui. Redis et Redis. Alors, ce case-là, il est un peu plus complexe, mais il a eu lieu cette année. Redis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un moteur de base de données dit NoSQL. En mode clé valeur, qu'on utilise souvent, par exemple, pour faire du cache mémoire, donc des classes de la base de données mémoire, ou maintenant de la base de données de stockage brut aussi, très violente. C'est un moteur qui a énormément de popularité. Si vous prenez, par exemple, chez AWS, dans le cloud public d'Amazon, c'est le moteur de base de données le plus utilisé au monde, tout version confondue, en mêlant genre SQL et NoSQL et SQL. Voilà. Donc c'est vraiment un moteur qui a énormément de popularité, qui développe énormément de fonctionnalités très intéressantes, et qui, à l'origine, est un produit open source. Mais alors, open source communautaire pur. OK? Donc, je vais reprendre un peu de cartographie. Né en 2009, déposé donc en open source par Antirez. Donc, Antirez est le fondateur, on va dire, du moteur, qui a fait la première version, qui est celui qui s'en occupe. Open source, le communautaire, ne veut pas dire sans propriété. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'open source, on peut être fondateur d'un produit, le laisser ouvert à la communauté pour le faire vivre, mais garder une paternité du produit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle de ça, il y a Garantia Data, une autre société, qui en 2011 a décidé de monter un conglomérat, une boîte, sur le même modèle, et qui a commencé à discuter avec le papa, le fondateur de Redis. En 2013, ils ont essayé de renommer leur propre produit Redis DB. Ça a été refusé par la communauté jusqu'au moment où Antirez a rejoint Garantia Data, qui est devenu Redis Labs depuis, entre deux, donc une boîte privée, qui a repris le même nom, qui a négocié avec lui. En 2018, le papa de Redis a dit « En fait, ça m'appartient, je vous emmerde, je cède tous mes droits d'usage, tous les noms, les droits de licence, de licensing dessus à Redis Lab. » Et en 2021, ils renomment le produit Redis et officiellement, ils ont sorti un système de licence cette année. Donc voilà, on est sur un produit qui est né en open source, qui a été développé en open source, dont finalement, l'auteur initial a gardé des propriétés, une paternité, et a décidé de substituer à la communauté ses droits en disant « ben non, en fait, je reprends le truc, ça m'appartient, j'en fais ce que je veux ». Et contre des sous, des piastres, ben, ils ont intégré une boîte privée. Donc on est sur un produit qui a basculé de l'open source à une partie privée sous licence.
C'est bien ça, c'est intéressant parce que là, c'est là la confusion de la plupart des gens sur l'open source, c'est comme gratuit, c'est comme sans licence, c'est pas vrai. Il y a des licences, faut les connaître, faut savoir celles qui touchent, celles qui sont affectées. Je connais pas celles que Redis avait au début, mais généralement, on va trouver des licences de type OpenBSD qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus libres. Mais quand on tombe dans le GPL notamment, ben là, on est plus contraint, mais ça maintient que il y a toujours un droit d'auteur, donc un droit de paternité sur le code qui appartient à qui veut bien. Puis ils l'ont changé, Elastic. De toute façon, il y en a plein qui l'ont changé avec le temps. Là. Il y en a au début, c'était plus ouvert. Avec le temps, se sont fermés pour différentes raisons, généralement commerciales, pour aller vers ce genre de choses-là. Puis ça, c'est un des changements les plus violents de genre passer littéralement d'open source à un rachat complet et essentiellement la disparition de la licence open source qui permet l'utilisation libre de ce que c'est. Parce qu'il demeure propriétaire. Et là, puis comme il a vendu, ben là, c'est la compagnie qui est propriétaire du code. Même si celui-ci est open source, il n'est pas libre. il est juste source ouverte. Fait que c'est un peu cette confusion-là. Puis ça doit pas être drôle ce qui se dit dans la communauté. Là.
Alors, comme tu dis, oui, c'est intéressant parce que open source, effectivement, je pense pour beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées, ça veut dire gratuit. Et effectivement, non. Et une entreprise, alors, peut prendre un produit open source, mais souvent une entreprise va vouloir acheter du support, c'est-à-dire l'idée que quelqu'un est garant du suivi, de la continuité, de la pérennité d'un produit sur le temps. Une entreprise, elle travaille pas... Il y a des business qui se gèrent la semaine, mais quand on fait des investissements dans l'informatique, en général, c'est pas pour une semaine ou deux. On essaye de gagner une visibilité sur 3, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Donc, on a besoin d'outils fiables, on a besoin de choses qui nous permettent de nous engager sur la durée. Si nous, on investit dans une technologie, c'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas si simple que ça. On passe pas de Windows à Linux du jour au lendemain comme ça, juste parce qu'on a dit. On est geek, on aime bien la techno, on sait que c'est faisable. Oui, oui. Mais pour une entreprise, c'est pas une ou deux personnes. C'est peut-être 100, 200, 400, 800, 8000 personnes. C'est de l'organisation. C'est changer du tout au tout, littéralement. C'est beaucoup plus impactant qu'on ne le croit. Et donc là, ce système-là, alors pour le coup, c'est assez démonstratif. Donc oui, l'open source peut devenir du pur licencié. Pour la petite anecdote, la boîte italienne, je crois que c'est ça, Garantia Data, qui s'est montée, c'est une boîte qui s'est associée avec Amazon pour la solution de Amazon Elastic Cache, donc le cache sous Redis. Initialement, elle a été créée pour ça, pour pouvoir donner une garantie à Amazon, qui est un éditeur qui va bien rentrer dans ce rôle-là. Et le plus drôle, c'est qu'aujourd'hui, donc, il y a une version open source Redis, donc retournée en open, qui s'appelle Valky. Valky est celle qui est en train de prendre la place, on va dire le remplacement de la version purement open. Pour l'anecdote, Amazon a décidé de valider Valky chez eux. Donc, ils font souvent ça aussi, donc on voit qu'il y a une influence de certains gros éditeurs ou partenaires. Et t'as cité tout à l'heure Elasticsearch. Elasticsearch, on a eu la même problématique, c'est qu'Elasticsearch a été promu par Amazon pendant très longtemps dans le public, jusqu'au moment où la communauté a dit à Amazon, ce serait sympa de repartager ce que vous avez fait. Et Amazon a dit, bah écoutez, on vous emmerde, on va garder notre version, donc on va le renommer, on supporte les anciennes si vous voulez, mais nous on garde notre version à nous. Et on voit bien qu'en fait, on est pris au piège dans ces cheminements-là. À partir du moment où on choisit une solution, on n'est pas à l'abri d'un changement d'éditeur, de propriétaire, de système de licence, de fonctionnement ou d'arrêt net de la boîte qui peut se casser la gueule suite à un problème important ou un rachat. On a vu aussi des produits rachetés pour être enterrés en quelques mois par des éditeurs parce que ça les emmerde, parce qu'ils veulent plus en entendre parler. J'ai plus le nom en tête.
Apple le fait souvent, ça, les rachats qu'Apple fait. Fait que si une compagnie que vous utilisez a été rachetée par Apple, oubliez, le produit va disparaître dans la prochaine année. C'est systématique. Eux font disparaître les produits parce que leur objectif n'est pas dans ce cas-ci de faire disparaître le produit. Leur objectif, c'est d'intégrer la technologie dans leur offre centrale. Donc, vous aurez peu votre petit produit unique. Ben, il va disparaître de son unicité du moment qu'il est racheté. Il y en a plusieurs autres qui le font, mais en même temps, tu sais, il y a plusieurs qui font des rachats. Dans les grands rachats, là, c'est comme on regarde McAfee qui a été racheté par Intel, ou on regarde ce qui est là, Splunk par Cisco, ou tout, c'est grâce à Duo par Cisco aussi. Ces grands rachats-là ne mènent jamais à des situations heureuses. VMware, on en a parlé, VMware a passé entre beaucoup de mains pour finalement atterrir dans les mains de Broadcom, puis là, on est dans une situation malheureuse. Donc, tous ces éléments-là viennent influencer ce qui se passe et comment les produits se font et comment se déplacent. Je vais rebondir sur Elasticsearch aussi parce que puis il y a eu une chicane entre Elastic, la compagnie, et Amazon, justement, parce que ces éléments-là ne sont pas c'est pas fait de façon harmonieuse. Les licences derrière Elastic ont changé à cause de ces éléments-là et comment Amazon l'a fait. Finalement, après, ça s'est résolu à l'amiable, mais c'est de ne pas oublier que ces grands opérateurs informatiques-là ont des capacités que les plus petits éditeurs n'ont pas. Et s'ils décident de passer le bulldozer, ben ils vont passer le bulldozer, soit en rachat, soit en intégration, soit en remodification d'une version qui est la leur. Eux, ils vont aller là-dedans. Là.
Alors, je vais réagir là-dessus. Je vais rajouter un petit élément que j'ai vu il y a quelques semaines. Amazon, en douce, est en train de supprimer des services actuellement. C'est très rare, hein. Je l'ai toujours dit. Et là, non. Là, c'est plus rare. On a 8 services qui prennent une claque dans la gueule, dont certains sont dégagés du jour au lendemain. Donc, on voit bien là aussi que les éditeurs peuvent se garder le droit, effectivement, d'enlever des services. Et la raison de ça, c'est la communauté l'utilise pas, tout le monde s'en branle, donc on arrête. Je vais donner un service qui s'appelle Code Commit. Chez AWS, Code Commit, c'est du Git, en fait. Hein. C'est du Git pour pouvoir stocker donc de la donnée, pour pouvoir faire vos artefacts, etc., dans vos pipelines d'automatisation. Amazon considère que le produit n'est pas assez utilisé, donc ça sert à rien de le maintenir. Ils ont décidé de le dégager, mais de le dégager dans quelques semaines, quoi, direct. Aujourd'hui, dans l'interface, vous pouvez déjà plus en faire. Si vous avez un nouveau compte que vous créez maintenant, vous n'avez plus le droit de le faire. Il n'y a plus que les clients qui sont là et ils lui disent, bah, si vous voulez en faire, vous utilisez GitLab, vous utilisez GitHub, vous utilisez d'autres tiers, vous le faites vous-même. Nous, ça nous emmerde de le faire. Donc, on a effectivement là aussi une question stratégique qui se pose, qui, quand j'utilise ces outils-là, comment je fais pour gérer cette dépendance et le risque, effectivement, de l'éditeur? Et je suis le premier surpris, hein. Ça fait 9 ans que je fais de la AWS, c'est la première fois que je vois Amazon nous faire une vague de retrait de produits. On a eu, dans le passé, des retraits de produits, ça a existé. Souvent, Amazon a un indice, il renomme le service classique, il l'appelle classique quelque chose, et ça veut dire que le service va être retiré. Le souci, c'est que par rapport à l'exemple que je donne aujourd'hui, les outils que je connais qui étaient renommés en classique, ils ont mis 8 ans à disparaître en moyenne. C'est classique, le EC2 classique, c'est le classique ELB, par exemple, qui n'existe plus, qui sont des produits qui ont mis 8 ans à disparaître et qui ont été remplacés d'abord par d'autres, et puis ensuite, on a été invité à dégager. Là, on a des produits, c'est le cas donc de Code Commit. On a Cloud9, qui est un IDE dans le cloud pour le développement dans le cloud d'Amazon, qui dégage, pareil, et qu'ils ont racheté il y a 6 ans, et qui est là, et du bon, ça marche pas assez, ça nous emmerde. Alors, en tant que formateur, je vous raconte pas comment on est content. Parce qu'on s'est fait un peu chier à monter en compétence sur ces produits-là pour des fois avoir du mal à les vendre, avoir des fois 10 slides dans un cours dessus et se voir, en fait, le produit, tout le monde s'en branle. Je sais, mais il fallait nous demander, on vous l'aurait dit. Hein. Mais ça, ça nous redonne cette réflexion qui est, il n'y a pas de solution facile. C'est tout. C'est aussi rationnel que ça. Si on retourne derrière, si on laisse de côté juste la technologie, purement l'informatique, on dit, il n'y a pas de solution facile. Si vous voulez qu'un truc soit fait, à un moment donné, il faut le faire. Et c'est ce qu'on disait en plaisantant avant de commencer. On a des clients qui sont un peu trop feignants là-dessus aujourd'hui. Et ça reflète aussi ce moment du temps. Les fournisseurs du cloud nous ont vendu une belle image. Je vais pas dire un beau mirage, mais que tout pourrait tourner tout seul automatiquement. Et c'est un autre sujet qu'on reviendra reprendre sur comment comprendre comment ça fonctionne réellement derrière et quel est l'impact. Et il n'en est pas moins que quand on achète une voiture, une voiture, ça se conduit. Même quand on vous prétend qu'elle peut avoir de l'automatisation. Aujourd'hui, la voiture autonome, il y en a très peu, ça n'existe quasiment pas. Donc non. La plupart des voitures, elles nécessitent que vous ayez un permis, que vous soyez capable de la piloter. Et puis, quand elle ne marche pas, il faut l'emmener au garage. Elle ne va pas y aller tout seul. Voilà, c'est tout. Ça ne va pas se réparer tout seul. Donc, l'informatique, c'est pareil. Et on en parle, parce qu'on discute souvent en off aussi des clients qu'on croise, etc. On hallucine de voir qu'on est toujours dans une époque où ça ne cesse pas. On a des clients qui sont surpris que les trucs ne marchent plus. Mais en même temps, tu t'en occupes pas depuis des mois. Ou que les trucs ne fonctionnent pas comme ils voudraient que ce soit fait. Je dis, mais tu l'as pas mis en place pour... À un moment donné, on se dit, il y a un creux qui se passe entre la rationalité et l'effet attendu.
Ouais, puis ça, je suis toujours étonné à quel point. Puis là, on parle de beaucoup de dettes technologiques, notamment. Puis là, la dette technologique dans le cloud est en train de grandir parce que justement, ça, on répète la même erreur. Et je suis toujours étonné à cette réflexion-là, puisque si on n'entretient pas notre maison, elle finit par s'endommager, par dépérir. Si on n'entretient pas notre auto, notamment le changement d'huile, le moteur va finir par exploser, donc l'auto va devenir inopérante, littéralement, parce qu'on va l'avoir endommagée. Donc, tous ces éléments-là qui sont dans le monde réel, dans lequel on est habitué, dans lequel on fait, dans l'info nuagique ou dans l'informatique en général, on ne fait pas. On pense par magie que sans entretien, les choses vont continuer à fonctionner éternellement. Tu le rappelles de VMware par le rachat, c'est un bel exemple de... ça n'a pas une éternité, c'est pas magique. Ces éléments-là, on redit, c'est la même chose, ça nous ramène le fait que c'est pas magique. L'open source n'est pas magique, il n'y a rien qui est magique. Et ça demande de l'entretien, ça demande de la connaissance. Et puis ça, on le vend souvent aussi, on en parlait en off, les éléments sont de plus en plus complexes et dans lesquels les gens et les clients, notamment, s'en vont dans l'autre côté, ne veulent pas adhérer à la complexité dans laquelle on s'en va. Fait qu'on s'en va dans des directions opposées qui vont nécessairement causer un souci quelque part parce que on peut pas fonctionner comme ça.
Les clients sont en train d'acheter le miracle de « j'ai plus à faire, mais j'ai le bénéfice ». C'est ce qu'on avait vu avec les IA génératives, c'est ce qu'on a avec le no-code. C'est des outils super pratiques, mais plus on fait faire par quelqu'un d'autre, moins on garde la maîtrise. Donc c'est le sujet qui se cache derrière. Si on ne veut pas être impacté négativement par ce genre de démarche, par ce genre de situation, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un haut niveau de maîtrise et de compétence. Et tu viens de le rappeler, c'est ce qu'on disait, on voit plutôt une tendance à l'inverse où les clients s'écartent en disant « mais moi, j'en ai plus rien à foutre ». Ce que je faut comprendre, hein, quand je vends de la chaussure ou que je transporte du poisson, c'est mon boulot, c'est ça, c'est pas de m'occuper de l'informatique. Le souci, c'est qu'on n'est pas encore dans la science-fiction. Donc aujourd'hui, toutes ces fermes de serveurs, faut bien quelqu'un pour les gérer. Et quand je les donne à gérer par quelqu'un d'autre, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est intéressant, et je pense que c'est quelque chose que je vais mettre maintenant dans mes cours, tu déplaces une dette technologique vers une autre dette technologique, t'en enlèves pas. Tu la substitues, tu la rends à quelqu'un d'autre qui te la facture. Et si cette personne, elle s'emmerde à faire des trucs que t'as pu à faire, oui, elle te facture. Et ça, c'est un argument d'ailleurs. Quand on va dans un cloud public, c'est parce qu'on n'a plus envie de s'emmerder à faire certains trucs. Donc oui, c'est pas gratuit. Vouloir dire, je veux le résultat, mais en plus, je voudrais que ce soit pas cher ou gratuit. À un moment donné, intellectuellement, faut se poser la question de la démarche. J'entends bien. Quand j'ai 6 ans ou 10 ans, je comprends. Quand j'en ai 40 et que je suis patron d'une entreprise, à un moment donné, non. À un moment donné, il va falloir payer tes outils, c'est tout. Il va falloir les gérer et il va falloir les entretenir. Et c'est presque épuisant. J'espère que ça vous fait rire autant que nous. Mais c'est presque épuisant d'avoir à quel point on a toujours un décalage entre les gens qu'on a en face de nous et cet état de conscience de ces outils-là. C'est pas miraculeux, c'est pas gratuit. La façade marketing est très jolie. Hein. Tous ces outils-là nous ont vendu des facilités qui sont réelles par rapport à des situations d'origine. Il y a une progression. Mais si vous voulez ne rien faire vous-même, alors il faut être très riche et payer les autres pour le faire et c'est tout, et ne pas regarder l'argent. On disait tout à l'heure, Broadcom part du principe que les clients vont payer à un moment donné parce qu'en fait, c'est trop chiant pour eux de le faire. Et je pense que de ce côté-là, ils vont réussir en partie. C'est vrai.
Ouais, moi aussi, je suis pas de l'avis qu'ils vont réussir, probablement, au moins rentabiliser. Je pense qu'ils vont réussir à rentabiliser leur achat. Est-ce que ça va être pérenne dans le temps? Je suis pas convaincu parce que les choses vont changer et, vont aller dans une autre direction. Mais, c'est sûr que à court terme, ils vont réussir puis ils vont recouper les frais d'acquisition, là, puis après, on verra ce qui va arriver avec le produit. IBM, on parlait en entrée de jeu IBM avec Terraform. IBM n'est pas reconnu pour étant une entreprise très souple, disons. Donc, on verra ce que ça va donner. Ça aussi, c'est un cas qui va avancer. Jusqu'à présent, on n'a pas d'informations sur ce qui va suivre. Tout le monde se croise les doigts en espérant que IBM ne fasse pas un Broadcom 2, c'est-à-dire de commencer à licencier de façon violente le Terraform, de maintenir le chose qu'actuelle. Mais les dommages ont déjà commencé à se faire. Dans le fond, les gens ont déjà commencé à quitter le bateau. Dans le cas de VMware, c'est plus difficile. Mais j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. C'est des choses très intéressantes. Et des choses, je pensais qu'elles étaient derrière nous, parce qu'on en a vu beaucoup dans le passé, des éléments comme ça. Et clairement, les gens, l'histoire se répète.
Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche, l'histoire se répète. Hélas. Faire et défaire, ouais. C'est déjà travaillé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer. Tu sais quoi? On a encore pas mal d'années de boulot devant nous, je pense.
Oh ouais, je pense que c'est pas terminé. On va conclure là-dessus parce que de toute façon, il y a certains de ces sujets-là qu'on a commencé à aborder en surface, qu'on veut effectivement faire des épisodes plus complets sur ceux-ci. Parce qu'il y a quand même une réflexion intéressante à aller chercher puis une profondeur qu'on veut explorer. Donc, bref, merci encore pour cette intervention-là. C'est très intéressant parce qu'on est un peu plus philosophique, disons, mais qui a quand même des impacts très importants sur le fonctionnement de notre société et le fonctionnement des entreprises. Je pense que c'est important que les gens en prennent conscience.
Merci à toi.